Bienvenue à la balado-diffusion sur Radio Créon du colloque sur le rapport Taylor-Bouchard qui s'est tenu à Montréal en mai 2009. Welcome to the audio podcast on Radio Créon of the conference on the Bouchard-Taylor report that took place in Montreal in May 2009.
Dans la relève, Jean-Claude Tremblay approuve Richard qui cherche mot de l'œil. La passe est ici, il est seul. Il lance.
Vous allez voir ça, vous allez nous aimer.
Alors, merci beaucoup. Merci d'être venu si ponctuellement pour commencer la dernière partie de cette séance d'après-midi consacrée aux perspectives européennes. I would like to wish to take just a brief moment to thank again our whispering translators who are Karim Mathieu-Lapierre, Nick Segas. We have also Nigel D'Souza et Annie Obomsawin-Bégin. Thank you very much for your very helpful assistance. Et sans plus tarder, je vais vous donner la parole à Jean Bobéro avec une petite correction concernant le titre justement de l'ouvrage que j'avais évoqué tout à l'heure, qui en fait s'est intitulé en dernière instance « Une laïcité interculturelle, le Québec, avenir de la France ». Jean Bobéro.
Bon, merci bien. Donc, je suis très heureux de parler à ce colloque, mais je ne parlerai pas en tant que dissident de la commission Stasi, bien qu'on ait fait référence à cette époque de ma vie, mais en tant qu'ayant occupé cette chaire d'histoire et sociologie de la laïcité. Alors, c'est peut-être pas un hasard si le titulaire de la seule chaire française consacrée à la laïcité a été cependant le dissident de la commission Stasi, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et évidemment, je vais me focaliser sur le chapitre consacré à la laïcité dans le rapport Bouchard-Taylor, pas seulement à cause de ma spécialité, mais aussi parce qu'il me semble que c'est un chapitre neuf dans le contexte québécois-canadien et qu'il s'agit d'un chapitre stratégique dans la mesure où les accommodements raisonnables ont été contestés souvent au nom précisément de la laïcité. Alors, même en se focalisant sur ce chapitre, comme il est riche, il est nécessaire de trier. Et rapidement, donc, je vais essayer de développer deux points. D'une part, l'intérêt de ce chapitre pour la France, puisque c'est vu de France, hein, c'est le thème du colloque. Et d'autre part, les questions qui demeurent. Et là, je rejoindrai un certain nombre de choses peut-être qui ont été dites déjà aujourd'hui, mais à ma manière. Alors, premier, l'intérêt pour la France et la vision, disons, critique qu'il a implicitement de la représentation actuellement dominante en France de la laïcité. Alors, le premier intérêt, c'est l'affirmation d'une laïcité québécoise disons autonome par rapport à la laïcité française dans son parcours socio-historique et sa réalité actuelle, même si, disons, la laïcité française est plus complexe qu'on ne le croit. Bon. Le rapport Bouchard-Taylor s'inspire notamment des travaux de Micheline Milo pour montrer qu'il y a eu une séparation implicite et une indépendance de l'État silencieusement affirmée dès l'acte de Québec et le 19e siècle. Et puis, il montre aussi donc, que depuis la Révolution tranquille, il y a eu une laïcisation progressive des institutions, que la laïcité est devenue graduellement un mode de gouvernance. Or, depuis 1989, parce que je ne trouve pas cette expression avant, on a tendance souvent à parler en France d'une laïcité exception française. Je pense qu'il est intéressant de montrer qu'il y a d'autres laïcités. J'y reviendrai in fine sur le problème laïcité-sécularisme. Dans la définition de la laïcité de Bouchard-Taylor, il y a quatre principes et on commence par les objectifs, l'égalité morale des personnes, la liberté de conscience et de religion, et principes qui sont les objectifs de la laïcité, et ensuite deux autres principes qui sont les moyens, neutralité à l'égard des religions, séparation, alors le rapport, sauf erreur de ma part, dit de l'Église et de l'État, il vaut mieux dire évidemment des Églises et de l'État. Moyens donc au service de ces objectifs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je retrouve une analogie avec la première définition formalisée du terme de laïcité. Vous savez que le terme de laïcité est né en France dans les années 1870, et la première définition formalisée a été donnée par le philosophe Ferdinand Buisson, qui était l'adjoint de Jules Ferry pour la laïcisation de l'école, en 1883, dans le dictionnaire pédagogique. Et Buisson mettait également en avant des objectifs de la laïcité. Et comme objectif, il parlait de l'égalité de tous les citoyens devant la loi et de la liberté de tous les cultes. Alors, les termes ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a bien une analogie au niveau des objectifs. Et je pense que c'est important dans la mesure où, justement, on a peut-être maintenant souvent une représentation implicitement plus restrictive de la laïcité comme étant la disparition de la religion dans la sphère publique. Je reviendrai sur ce problème. Peut-être que un des problèmes de la laïcité, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met en premier, les moyens, la séparation, la neutralité, ou les objectifs, la liberté de conscience et de religion, l'égalité morale des personnes, l'égalité des citoyens devant la loi. On aboutit à deux conceptions différentes, sans doute, de la laïcité, suivant qu'on met d'abord en avant les objectifs ou qu'on met d'abord en avant les moyens. Il me semble que si on met en avant d'abord les moyens, la neutralité, la séparation, et qu'on subordonne finalement ces objectifs aux moyens, la laïcité prend des figures de religion civile républicaine. Alors quand je précise républicaine, c'est pour différencier de la description que donne Bella de la religion civile américaine, bien que l'Amérique soit aussi une république, les États-Unis soient aussi une république. Mais Bella propose aussi en incidence une autre religion civile où il dit la république se sacralise elle-même. Et c'est ça un peu la religion civile républicaine à la française, la République, les valeurs de la République sacralisées sans qu'il y ait besoin d'un Dieu déconnecté des religions comme aux États-Unis. Alors on peut concrétiser cette laïcité religion civile républicaine de façon schématique comme une laïcité qui a tendance à imposer une sécularisation plus ou moins obligatoire à ses citoyens sous couvert de laïcité. Et le thème récurrent en France d'islam républicain, d'islam modéré, la question qu'on pose, l'islam est-il soluble dans la laïcité, est-il compatible avec la laïcité, me semble être typique des questions d'une laïcité prenant des allures de religion civile républicaine. Alors, ce n'est pas nouveau. Au début du XXe siècle, il s'est posé aussi le problème d'un catholicisme républicain. Mais la loi de séparation 1905 a tourné le dos au projet de catholicisme républicain, alors que là, la vision de la nécessité d'un islam républicain est actuellement dominante en France. Une laïcité, je dirais laïque, si on peut dire, distinguera, à mon sens, la régulation politique laïque d'un côté, le rapport culturel à la sécularisation de l'autre. Et là, on retrouve le rapport Bouchard-Taylor qui, effectivement, distingue de façon peut-être trop succincte, à mon avis, parce que c'est peut-être pas forcément compréhensible pour tous les lecteurs, laïcisation et sécularisation. Alors, ça ne supprime pas toutes les difficultés. Et Bouchard-Taylor parle des dilemmes qui peuvent exister, mais ça clarifie trois points. Le premier point, c'est l'émancipation éventuelle des individus à l'égard de la religion n'est pas une affaire d'État, mais une affaire de conscience. C'est aux individus eux-mêmes qui ont reçu, disons, une instruction, une socialisation religieuse, de savoir s'ils l'intériorisent ou s'ils la rejettent ou s'ils la transgressent. C'est pas à l'État d'émanciper les individus à l'égard de la religion. La seconde clarification, c'est que l'intégration civique ne présuppose pas l'effacement des différences dans la sphère publique, notamment en distinguant bien deux sphères publiques, ce que fait le rapport, avec des contraintes différentes, la sphère politico-institutionnelle d'une part, la sphère publique de la société civile d'autre part. Et notamment dans la sphère publique de la société civile, les organisations religieuses ont toute leur place et peuvent effectivement avoir des paroles politiques, même si elles n'ont pas de pouvoir politique. Troisième clarification, distinguer dans ce que j'appellerais le religieux diachronique ou l'enracinement historique religieux des sociétés sécularisées, ce qui est du patrimoine culturel, c'est-à-dire une survivance d'un religieux diachronique dans une société sécularisée, la croix du Mont-Royal à Montréal, et ce qui a trait soit à la régulation politique, le crucifix à l'Assemblée nationale, soit à des conséquences discriminatoires, plus ou moins discriminatoires, le dimanche comme jour férié obligatoire. Le rapport distingue bien, même si l'Assemblée québécoise s'est dépêchée à l'unanimité de ne pas obéir au rapport sur ce point-là rapidement. Enfin, au niveau de ce chapitre, il y a un dépassement d'une vision de laïcité française, ange pour les uns, démon pour les autres, pour donner des exemples qui montrent que cette laïcité française, elle est souple dans certains aspects, restrictive dans d'autres. Souple, par exemple, quand elle dévolue gracieusement les édifices religieux, églises, temples, synagogues, propriétés publiques aux religions concernées, restrictive avec la loi de 2004 sur les signes ostensibles. Alors on pourrait dire de là souple pour le christianisme, restrictif pour l'islam. En fait, ça me semble plus complexe, car il y a certains groupes chrétiens minoritaires qui sont objets de suspicion. Et il y a d'un autre côté, malgré tout, une prise de conscience depuis quelques années, peut-être suite à la loi de 2004 d'ailleurs, de lutter contre les discriminations et de promouvoir ce qu'on appelle en France la diversité, ce qui est un euphémisme pour parler de multi- ou interculturalisme. Mais justement, ce qui est important, c'est qu'il y a une sorte de volonté de contourner le religieux pour promouvoir cette diversité culturelle et qui peut avoir en France à la fois une émergence plus grande de la conscience de la diversité culturelle et en même temps un durcissement du combat, disons, anticlérical, voire antireligieux. Donc une situation assez complexe. Enfin, pour terminer cette première partie, au niveau de la totalité du rapport lui-même, il me semble qu'il y a deux intérêts. D'une part, c'est l'articulation laïcité-interculturalisme. Alors, je ne reviens pas sur la communication de Kim Lika ce matin sur inter-multiculturalisme. Je serais assez d'accord pour penser que, entre en tout cas la vision de Kim Lika et la vision qui juridiquement prévaut au Canada du multiculturalisme n'a pas de différence culturelle avec l'interculturalisme. Stratégiquement, en France, parler d'interculturalisme sera beaucoup plus vendable que parler de multiculturalisme. Et c'est pour ça que, notamment, moi, je parle de laïcité interculturelle. Et je faisais une présentation, d'ailleurs, à la fois du rapport Bouchard-Taylor et de mon livre, à des responsables du Parti socialiste mardi. Et effectivement, ils m'ont dit, oui, l'interculturalisme, on peut le vendre à nos troupes, pas le multiculturalisme. Bon. Donc, il y a cet aspect stratégique qui n'est pas négligeable. Deuxième intérêt du rapport pris globalement, le travail sur les médias qu'a fait le rapport et que la commission Stasi n'a pas fait. Et je crois que ça, c'est une différence importante entre Bouchard Taylor et la commission Stasi. La laïcité en France depuis 1989 et la crise des accommodements raisonnables sont mis d'affaires. Des sociétés pluriculturelles ont forcément des frottements culturels. Certains de ces frottements culturels peuvent aboutir à des incidents. Est-ce que ces incidents vont devenir des affaires dont les journaux parleront en boucle ou pas ? C'est le cas en France depuis 1989, notamment au niveau du foulard. Ça a été le cas de 2006 à 2008 au Québec. Et il y a un moment où il faut arriver à sortir, à retrouver le calme, si vous voulez. Bon. La différence, c'est qu'en France, on a retrouvé un certain calme, en tout cas sur le foulard. Les médias, maintenant, se désintéressent des problèmes de foulard à l'école, en tout cas, par une loi restrictive. Mais que du coup, l'aspect contre-productif, c'est que le foulard ailleurs qu'à l'école devient un objet de suspicion, alors que la loi ne concerne que l'école primaire et secondaire. Bon. La commission Bouchard-Taylor a ramené le calme, notamment par un rappel fait aux médias de leur responsabilité, en indiquant que c'était une crise de la perception qui engendrait une spirale de violence. Et je fais l'hypothèse qu'il y a à peu près autant, ni plus ni moins, d'incidents dus à des frottements pluriculturels en 1909 au Québec qu'en 2009, pardon, au Québec qu'en 2006-2007, mais qui ne sont pas transformés en affaires, que les médias, pour le moment, ont une politique plus responsable. Deuxième partie, les problèmes. L'accord donc fondamental ne doit pas conduire à les masquer. Et puis un rapport destiné à une population n'est pas, ça a été dit ce matin aussi, un séminaire de recherche. Et donc là, on se place sur un niveau différent. Bon. Le premier problème, ceci dit, avant le problème de fond, il y a un premier problème terminologique, en tout cas, entre la France et le Québec. Dans la mesure où je comprends très bien le pourquoi du qualificatif de laïcité ouverte au Québec, et notamment face effectivement à une représentation de la laïcité française comme une laïcité répressive. Mais en France, la notion de laïcité ouverte qui a été utilisée notamment dans les années 80 a été instrumentalisée, je dirais, pour parler schématiquement évidemment, par des organisations religieuses qui, elles, je dirais, font le contraire d'une religion civile républicaine, c'est-à-dire tentent de répondre aux défis de la sécularisation, aux défis que leur pose la sécularisation de la société et de nombre d'individus, en essayant d'obtenir de l'État moins de laïcité. Et donc, le slogan « laïcité ouverte » ou l'expression « laïcité ouverte » a tendance souvent dans le discours social et notamment socio-religieux à se réduire uniquement à une laïcité qui finalement serait la même chose que la liberté de religion. Et c'est tout. Bon. Et donc là, il y a forcément donc une situation différente entre le Québec et la France, en sachant que la laïcité française n'est pas seulement, comme le dit le rapport, en partie souple, en partie répressive. Elle est aussi actuellement, sur certains points, une laïcité bloquée. Et je donnerai deux exemples. La France n'a pas d'acceptation sur le mariage de personnes de même sexe, alors que deux monarchies qui ont été longtemps des monarchies catholiques, l'Espagne au sud et la Belgique au nord, acceptent et ont légalisé le mariage de personnes de même sexe. Et la France n'a pas de loi sur l'euthanasie, alors que la Belgique en a une. Et c'est notamment l'opposition de l'Église catholique qui bloque à ce niveau les avancées d'une laïcité et une différence entre la légalité juridique et les normes religieuses. Venons du problème de fond. Là, je vais retrouver des questions dont on a parlé, notamment cet après-midi. Bouchard-Taylor reconnaît que l'État n'est pas neutre jusqu'au bout et qu'il y a des principes politiques communs que le rapport différencie des convictions de conscience. Bon. Je crois qu'effectivement, c'est au niveau du constat sociologique, juridique, philosophique, on peut être que d'accord, mais ça signifie bien qu'il y a des problèmes de frontières. et que quand il est dit que l'État doit pouvoir rendre compte aux citoyens que ses décisions ne sont pas le fruit de conception du monde, c'est à la fois vrai et limité, disons, partiel. Bon. Il y a des principes politiques qui sont en affinité avec des éléments philosophiques, et il y a forcément un débat social sur ce lien de principes politiques et d'éléments philosophiques. Alors ça peut aller jusqu'à, d'ailleurs, l'instrumentalisation. En France, l'article 4 de la loi de février 2005 sur le rôle positif de la colonisation avait été justifié par le rapporteur par une distinction que Ricoeur faisait sur l'histoire et l'histoire-mémoire et le fait que l'histoire n'était pas la propriété des seuls historiens. Bon, je ne pense pas que Ricoeur aurait été d'accord avec ce projet de parler de manière positive de la colonisation, mais ça montre bien comment on peut instrumentaliser des références philosophiques. Mais au-delà même de leur instrumentalisation, se pose la question... au nom de quoi imposer, disons, à l'ensemble de la population des principes politiques liés en affinité avec des éléments philosophiques. On sait très bien, d'ailleurs, que ces principes évoluent, qui ne sont pas les mêmes à un demi-siècle de distance. Et s'ils évoluent, s'ils ne sont pas les mêmes, ça veut dire que les principes d'aujourd'hui ont été à un moment minoritaires, ont été à un moment suspectés, et puis peu à peu, ils se sont socialement imposés. Bon. Et donc, ça justifie le fait qu'il y ait une lutte sociale au niveau des principes philosophiques en affinité avec les principes politiques de l'État, qu'il y ait des groupes de pression dans tous les sens pour la modification de ce principe ou pour la défense qui peut devenir crispée de certains principes. Et il me semble que c'est une question que, et en France, et au Canada, et au Québec, il faut de plus en plus se poser. Est-ce qu'on n'est pas, pour diverses raisons que j'ai malheureusement pas le temps de développer, est-ce qu'on n'est pas actuellement dans une sorte de sortie socio-historique du projet des Lumières ? Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on va retourner en arrière de ce projet des Lumières, mais peut-être faire un dépassement à la Hegel, dans une certaine mesure. Et si oui, s'il y a cette sorte de sortie historique du projet des Lumières, eh bien, on n'aura pas seulement, disons, des problèmes de dissensus entre principes politiques communs et orthodoxie religieuse, on aura aussi des dissensus entre principes politiques communs et, orthodoxie de la philosophie des Lumières. Et il faut peut-être y réfléchir et s'y préparer. Oui, ça va être dur, mais je vais essayer. Même, disons, si on est d'accord sur les principes établis et leurs fondements philosophiques, il y aura forcément un débat interprétatif. Et tout le problème, c'est de savoir comment mener ce débat interprétatif. Et notamment sur la question de l'égalité homme-femme, il est beaucoup dit en France, et ça a été dit à propos de l'affaire des vitres givrées, l'égalité homme-femme n'est pas négociable. Oui, mais quel débat interprétatif sur l'égalité homme-femme ? On en a eu une illustration tout à l'heure avec l'intervention précédente. Troisième problème, ces principes communs, donc, fonctionnant dans la sphère politico-juridique institutionnelle et la possibilité pour les églises et les religions de s'en écarter. Alors, la définition de la séparation donnée par le rapport Bouchard-Taylor me semble un peu succincte. Il est parlé d'autonomie réciproque, ce qui ne lève pas une certaine ambiguïté. Au Moyen Âge, on parlait du pouvoir temporel, du pouvoir spirituel, leur autonomie. Alors, je sais bien qu'on n'en est plus là pour le rapport ni pour tout le monde, mais peut-être qu'il faut compléter la notion d'autonomie réciproque en insistant beaucoup sur le fait qu'on n'est pas dans le même niveau, que le politique est de l'ordre du pouvoir avec obligation et sanction et que le religieux est de l'ordre de l'autorité librement intériorisée ou rejetée. Le rapport le dit ailleurs, mais peut-être il faut bien le mentionner au niveau de la séparation parce que souvent, justement, la séparation tente de dire qu'il y a une sphère de l'État, une sphère de l'Église. Or, ce n'est pas le même niveau de sphère, disons, par rapport à la société globale. Et dans les deux exemples de dissensus que donne le rapport Bouchard-Taylor, ils n'ont peut-être pas la même validité, même si leur intérêt est de prendre comme exemple des religions différentes. Il est donné, d'un côté, comme exemple des dissensus, la valeur moindre du témoignage d'une femme. Là, on fait référence aussi implicitement peut-être au problème de la charia en Ontario. Et la valeur moindre du témoignage d'une femme touche malgré tout à la sphère juridico-politique. D'un autre côté, il est question du refus de l'Église catholique que les femmes accèdent à la prêtrise. Bon, on peut être scandalisé par ce refus, mais c'est un problème interne de l'Église catholique, et ceux qui trouvent ce refus inacceptable peuvent quitter l'Église catholique. Bon, donc les deux exemples, à mon avis, ne jouent pas tout à fait dans le même registre. Bon. Mais c'est difficile, et actuellement, le débat qu'il y a sur des propos dit homophobe, indiqué par des religieux, le montre. Quand des leaders religieux condamnent l'homosexualité, est-ce qu'ils la condamnent d'un point de vue théologique, en valeur interne dans leur église? Et après tout, à ce moment-là, ça serait la même chose que l'interdiction pour les femmes d'accéder à la prêtrise dans le catholicisme? Ou est-ce qu'ils donnent un propos général, et donc un propos discriminatoire et insupportable par rapport aux principes politiques libéraux en tant que tels? Le débat est ouvert et ce n'est pas facile de trancher. Quatrième problème, il est dit dans le rapport Bouchard-Taylor que l'État doit favoriser le développement de l'autonomie critique des élèves en les exposant à une pluralité de modes de vie et de visions du monde. Et qu'ainsi, l'État rend la vie plus difficile aux groupes qui cherchent à se soustraire à l'influence de la société majoritaire et à perpétuer un style de vie fondé sur le respect de la tradition plus que sur l'autonomie individuelle et l'exercice du jugement critique. Là, on rejoint une préoccupation essentielle de la laïcité française qui a été de former à la liberté de penser. Et cette formation à la liberté de penser a été considérée comme aussi importante que le respect de la liberté de conscience. Oui, mais ça a logiquement abouti, enfin logiquement plus ou moins, à des tentatives d'instauration d'un monopole de l'État sur l'éducation et à la revendication d'une seule école, l'école laïque qui serait gratuite et obligatoire. Et souvent, d'ailleurs, on dit il y a le triptyque gratuité, obligation, laïcité, alors que c'est faux. C'est l'instruction qui est obligatoire et l'école publique qui est gratuite et laïque. Bon. Et qu'en France, la liberté de l'enseignement a toujours existé, mais avec une légitimité républicaine douteuse, justement. Et finalement, à force de douter de cette légitimité de l'école privée et de vouloir faire un monopole de l'État sur l'éducation, eh bien, on a abouti à l'effet inverse, au fait que, depuis la loi Debré, l'État laïque finance à 80% des écoles privées sous contrat, et que la loi de 2004, finalement, va favoriser l'essor d'écoles privées pour des juifs voulant avoir la kippa ou des musulmanes voulant porter le foulard. Bon. Donc, on se repose le problème, finalement, quelle est la juste... quelle est la justesse, disons, pour l'État dans son... dans cette éducation des enfants à une société pluraliste et qu'est-ce qu'il peut faire et ne pas faire, jusqu'où ça doit aller et comment concilier ça avec le droit des parents par rapport à l'éducation. Et le fait que, de fait, existent des écoles privées à plusieurs degrés qui peuvent avoir des dissensus avec les principes de la société globale. Et on rejoint par là le fait que ce sont des orthodoxies religieuses qui demandent des accommodements raisonnables et que ces orthodoxies religieuses, donc à la fois l'accommodement raisonnable est au cas par cas, et puisque, en général, au niveau religieux, ce sont des orthodoxies religieuses qui le demandent, et que ces orthodoxies ont codé un peu, disons, leur doctrine jusqu'à un certain point, on peut peut-être prévoir le type d'accommodement qui vont être demandés et donc réfléchir de manière un peu générale jusqu'où on accepte le dissensus. Bon. Alors, en France, il y a un certain nombre de gens qui essayent de faire passer la frontière entre l'islam qui serait légitime et les sectes qui ne le seraient pas. Et par exemple, la position de Dounia Bouzard, c'est de dire que l'islam salafiste, ce n'est plus de l'islam, c'est des sectes. Bon. Et comme en France, les sectes sont objets de suspicion, c'est une position qui peut paraître séduisante à certains. Mais quelle attitude doit avoir une société moderne, démocratique, à l'égard des contre-sociétés qui nient ses principes politiques ? D'un côté, elle doit défendre l'individu contre son groupe, mais de l'autre côté, une société qui ne tolère pas de contre-société peut entrer dans un engrenage où elle sortira progressivement de ses principes démocratiques libéraux et où progressivement elle cheminera vers le totalitarisme. C'est la laïcité française de 1901 à 1904, parce qu'elle estimait que la congrégation, effectivement, était quelque chose de sectaire, a failli quitter l'épure de la démocratie libérale. Donc la question n'est pas simple. La commission Bouchard-Taylor n'avait pas pour mission de résoudre tous les problèmes, donc il faut continuer à débattre. Je terminerai donc par le problème de la traduction. Ce qui est laïcité dans la version française du rapport Bouchard-Taylor et secular state dans la version anglaise. Donc on rejoint les problèmes qui ont été posés tout à l'heure sur l'État anglais comme État séculaire et d'autres. Bon. Mais dans la version anglaise, Bouchard-Taylor parle de laïcisation différente de sécularisation. Bon. Et ça montre bien qu'il y a des difficultés terminologiques. Bon. Alors, est-ce que la Grande-Bretagne est un État séculaire et donc qu'on pourrait traduire en français par État laïque et un État où il y a du sécularisme et donc de la laïcité? Pour moi, justement, ça veut dire qu'il faut faire une typologie de la laïcité, une typologie de du sécularisme, qu'il faut déconstruire le sécularisme ou la laïcité comme des concepts qui seraient des concepts blocs, et qu'il faut parler peut-être d'éléments de laïcité, d'éléments de sécularisme que les États ont plus ou moins et qui peuvent avoir plus dans certains domaines, moins dans d'autres, et qu'à ce niveau-là, une comparaison internationale est non seulement fructueuse, mais absolument nécessaire. Personnellement, je dirais que l'État britannique est séculier dans une certaine mesure, il n'est peut-être pas complètement, mais que l'État français, avec sa tendance au gallicanisme d'État, lui aussi est séculier dans une certaine mesure, et pas complètement, mais d'une autre manière, évidemment, que l'État britannique. Et donc, c'est à une typologie des laïcités et du sécularisme que je convierai pour conclure cette intervention. Je vous remercie. Merci.